bonjour à tous. Je vous invite à lire une histoire bien connue dans l'Ancien Testament qui fait le régal des enfants à l'école du dimanche, c'est l'histoire de David et Goliath. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel au chapitre 17, lirons les versets 31 à 51. Voilà, je vous rappelle que l'armée d'Israël est face à l'armée des Philistins et qu'à ce Goliath, donc un géant qui vient et qui défie régulièrement l'armée. Et David, qui est venu voir ses frères, apprend cela et lui, il est prêt à aller rencontrer ce David et donc on va aller rapporter ses paroles au roi Saül. Après avoir entendu les paroles prononcé par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant alors que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. » Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibetière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël est un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta sa main à la gibetière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Une histoire bien connue. Un petit peu incroyable de s'imaginer ce jeune berger courant avec sa fronde, lançant la pierre, touchant dans le front et tout. Je me suis dit que Marie-Noël, notre prof de maths, pourrait nous faire tous les calculs de probabilité qu'il fallait pour, en courant les deux à la rencontre, que le caillou arrive en plein milieu du front et tout. Malaise. Vous rappelez peut-être une autre histoire qui s'est passée aussi dans l'histoire d'Israël. C'est l'histoire de Gédéon. Le peuple d'Israël était sous la domination d'une autre nation, qui était les Madianites. Et lui, il a délivré le peuple avec un petit nombre de soldats. Ils étaient 300 soldats contre des milliers, et il a réussi à délivrer le peuple. Le jour-là, l'Éternel voulait montrer au peuple que c'est pas par sa force qu'il allait remporter le combat et tout, mais que c'est lui, l'Éternel, qui allait donner la victoire. Et les moyens qui ont été donnés à Gédéon pour remporter cette victoire, c'était des cruches, des torches, des trompettes. C'est pas grand-chose finalement pour aller à la guerre. Il me dit qu'il y a bien des histoires dans la Bible où on voit que Dieu utilise des objets tout simples pour apporter des délivrances. Des objets tout simples pour manifester sa gloire. Hein, ce n'est pas des objets un peu mystérieux qui tomberaient du ciel, non, c'est vraiment des choses simples. On pourrait parler du bâton de Moïse avec lequel il va accomplir des miracles. Et le bâton de berger de Moïse, à un moment donné, dans l'histoire de l'Exode, il devient le bâton de Dieu. On pourrait parler des trompettes avec Josué qui ont servi à faire tomber les murailles de Jéricho. On pourrait parler d'une peau de mouton qui a été donnée à Gédéon de voir la volonté de Dieu confirmée. Une mâchoire d'âne pour Samson qui va tuer 1000 Philistins avec. Un récipient d'huile avec Élisée pour montrer comment Dieu peut répondre à nos besoins. Une ceinture de lin pour Jérémie pour illustrer la colère de Dieu. 5 pains et 2 poissons avec Jésus pour nourrir toute une foule. Les mouchoirs avec l'apôtre Paul pour guérir des malades. Il y aurait bien d'autres exemples à donner pour montrer que Dieu utilise des choses simples, des objets. Mais quand ils sont donnés à Dieu, quand ils sont consacrés à son service, alors il peut s'accomplir des miracles assez extraordinaires. L'histoire qu'on vient de lire, là, entre David et Goliath, certains théologiens disent qu'elle fait partie des histoires qui racontent finalement l'histoire du salut de l'humanité. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible qui nous rappellent l'histoire du salut de l'humanité. Et on pourrait, il y a plusieurs étapes, mais j'ai voulu juste, à cause du temps, en discerner que deux. Deux étapes qui nous font passer du désespoir à la victoire. Et j'aimerais mettre chacune de ces étapes en rapport avec l'Évangile et comment on vient de vivre pas, vous trouvez que ça allait bien avec. La première étape, c'est la situation donc désespérée, et la deuxième étape, c'est une foi victorieuse. On peut dire que Israël est dans une situation désespérée. Ils sont une fois de plus défiés par les Philistins. Et dans l'histoire d'Israël, les Philistins, on les retrouve constamment. Il y a toujours la guerre avec eux. Goliath, c'est un géant. Alors, suivant les mesures, comme on les prend, il faisait entre 2,50 m et 3 m. Et le Philistin annonçait un défi à Israël. C'est-à-dire que les deux soldats de chaque armée se battent, et celui qui gagne, l'autre armée devient l'esclave. Donc pour aller l'affronter un gars comme ça, non seulement il faut être courageux face à ce bonhomme, mais il faut réfléchir à la conséquence que si vous perdez le combat, c'est tout votre peuple qui devient esclave. Et là, personne n'ose bouger. Et il est dit, hein, dans le texte, le Philistin s'arrête donc devant les troupes d'Israël et leur dit « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme que nous nous battions ensemble. » Saül et tout Israël entendirent dire ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La dernière fois que je vous ai prêché, on a vu déjà une situation où il y avait guerre entre Israël et les Philistins. Hein? Et malgré une erreur du roi, une faute assez grave qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va offrir le sacrifice à la place de Samuel, on aurait pu en déduire que, ben voilà, ils vont connaître une défaite. Mais non, Dieu, dans sa grâce, donne une victoire. Mais le souvenir, apparemment, n'est plus là. Et je m'imagine que ce Philistin, revenant chaque matin en lançant les défis et tout, il faisait monter en plus la peur. Là, il n'est pas dit que les soldats s'en allaient, mais on peut imaginer l'ambiance dans le camp. Qui osera relever le défi? Comment qu'on va se sortir de cela? Moi, je crois qu'une fois de plus, là, la foi du roi, la foi des soldats, est mise à l'épreuve. Mais personne n'a le courage d'y aller. Personne n'a le souvenir de la victoire contre les autres, c'était des Amalécites. Personne ne fait allusion à la victoire. Personne ne demande d'invoquer l'Éternel. Personne ne dit, il faut qu'on aille chercher Samuel pour qu'il offre un sacrifice ou qu'il invoque l'Éternel. Non, ils sont comme paralysés par la peur. On peut remarquer que dans l'histoire d'Israël qu'ils ont souvent oublié les bienfaits, les délivrances, les bénédictions que Dieu leur a accordées. Et pourtant, quand on lit les prophètes, souvent il est dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et le souvenir est quelque chose d'important. Là, on vient de faire une liste de toutes les choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, et si on peut faire une liste, c'est parce qu'on se souvient de tout ce que Dieu a fait dans notre vie, on se souvient de ses promesses. Mais là, dans ces situations-là, Israël n'avait comme pas cette capacité. Vous voyez, juste la situation, le danger, voilà, les choses vont très mal pour nous, et on risque de devenir esclaves. Et je suis quand même étonné que personne ne dise, mais attendez, la dernière fois que ça s'est passé, l'Éternel est intervenu comme ça, et on peut renvoyer... chercher Samuel, il va offrir un sacrifice, invoquer Dieu et on va avoir sa bénédiction. Personne. Ils sont comme vraiment paralysés. C'est vrai que dans leur situation, à vue humaine, juste à une vue militaire, on pourrait dire qu'ils sont perdus. Et certainement que beaucoup devaient dire, mais qui va être assez fou pour relever ce défi? Qui va risquer sa vie pour relever ce défi qui va se faire aller tuer par ce géant qui devait être vraiment impressionnant. Aujourd'hui, certains évangélistes là disent que l'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, que l'évangile finalement commence par une mauvaise nouvelle. Qui pourrait se résumer par cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me suis rappelé un peu par rapport au mal, tout ça, là, je me suis rappelé certaines histoires de la Bible où on voit vraiment combien le mal a pris parfois des ampleurs et... a été tellement fort et tout qu'on a du mal à s'imaginer comment qu'on peut aller aussi loin dans le mal. Et l'actualité que nous voyons, hein, toutes les informations que nous avons, on dit mais comment des gens peuvent faire les choses qu'on voit, les tueries et les choses comme ça. Je me suis rappelé que du temps de Noé, le mal avait atteint des proportions tellement énormes. Il est dit que le cœur de l'homme était constamment tourné vers le mal, que Dieu a décidé de détruire ce monde, tout en sauvant une famille dans une arche. Je voudrais faire une petite parenthèse pour dire, on pourrait dire, oh, ben, l'histoire de Noé et de l'arche, ça va, quoi. Une fable pour les enfants, hein, pour arrêter avec ça. Mais si vous allez sur Internet, vous tapez « Dernière découverte de l'arche », vous tomberez sur une vidéo où une équipe de Chinois a trouvé l'arche en Turquie sur le mont Ararat. Et donc il y a une vidéo de cette arche, hein. C'est assez impressionnant. En tout cas, le message de la Bible est clair. À cause de ce mal, il y a une juste condamnation des hommes qui ont choisi de vivre sans Dieu. Le mal est une réalité et on en fait hélas l'expérience tous les jours. Et nous savons tous que le mal est avant tout dans notre cœur. On aurait pu s'amuser à lire Romains 7 où l'apôtre Paul montre que même connaissant le bien, il va faire le mal. Il va dire, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire et le mal que je ne voudrais pas faire, eh ben je tombe quand même dedans. Et on pourrait dire, nous, ben, comme les Israélites, finalement, la situation est désespérée, sans issue. L'apôtre Paul lui-même s'écrira à la fin du chapitre 7 dans Romains, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et on sait que la conséquence la plus grave du mal que nous faisons, le mal que la Bible appelle le péché, c'est cette séparation éternelle d'avec Dieu. Heureusement, le Seigneur est intervenu, aussi bien pour ce peuple que pour nous aujourd'hui. Et la deuxième chose que je vois dans ce texte, c'est une foi victorieuse. Ce n'est pas simplement l'intervention de l'Éternel dans l'histoire d'Israël, c'est l'intervention de l'Éternel qui passe par un jeune homme et avec peu de moyens. Ce n'est pas tout d'un coup l'Éternel qui fait venir 40 000 mercenaires d'un autre pays qui va détruire Israël, ce n'est pas impressionnant. C'est un jeune là qui est un enfant, il a l'âge du fils de Saül, donc je ne sais pas l'âge là s'il a au moment là 15, 18, 20 ans, mais. C'est un jeune, et le roi lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu vas aller combattre? T'es un jeune, tout ça, vote. C'est un géant, c'est un homme de guerre et tout, qui est habitué et tout. Et c'est pourtant par ce jeune homme que Dieu va apporter la libération. Il va amener une grande victoire à travers un berger qui va attaquer un homme de guerre. C'est sûr que pour le peuple, ça devait être totalement inattendu. D'ailleurs, ses frères, si vous lisez toute l'histoire, vont dire ouais, qu'est-ce que tu viens faire ici? T'as rien à faire dans le camp, tout ça, retourne garder tes moutons et tout. Mais lui, il a une foi assez incroyable. Je crois que les moyens que Dieu utilise souvent nous surprennent. Les solutions que Dieu amène des fois pour délivrer son peuple dans l'histoire de l'Ancien Testament sont parfois surprenants. C'est pour ça que j'ai voulu aussi vous lire l'histoire de Gédéon, parce que par rapport à peut-être 10, 20 000 soldats qu'il y avait en face, rien que dire qu'on va y aller juste avec 300 soldats, ça paraît une folie. Mais après le coup des torches et des cruches qui vont passer, de la trompette, ça paraît fou. Il utilise des moyens inattendus. Comme ici, le moyen qu'il utilise est vraiment inattendu. Et une chose importante, notez-la, la gloire, dans ce cas-là, ne peut revenir qu'à l'Éternel. Les hommes ne sont que, j'ai envie de dire, des instruments entre ses mains. Et je m'imagine quand David est parti, là, avec son bâton et sa fronde à la main, ses cailloux dans la poche, là, il me dit, franchement, qui aurait misé un copec sur lui? Mais pourquoi, je pense que certains ont dû dire, mais pourquoi sacrifier un jeune comme ça? Pourquoi le laisser mourir? Hein, ce qu'il fait, c'est vraiment une folie. Tout le monde a dû penser que c'était du suicide, qu'il n'avait aucune chance. Mais parce, d'autres pourraient peut-être se demander, et je pense que c'était la bonne question, comment ce jeune homme peut-il aller au-devant de ce géant sans avoir peur et en étant sûr de le tuer? Et le, entre guillemets, secret de David, c'est une foi solide en l'Éternel. Mais une foi qui a été éprouvée. ça qui nous est raconté, l'histoire du lion, l'histoire de l'ours, c'est pas que David était plus fort que ses animaux, mais il avait confiance en l'Éternel, et que l'Éternel lui a donné la force, le courage de vaincre ses animaux, et cette foi qu'il a mis à l'épreuve, eh ben, elle lui donne l'assurance d'aller affronter ce géant, et pour lui, il ne voit pas le géant. Il ne voit pas en Goliath un géant, un homme de guerre qui défie Israël, mais il voit l'occasion de glorifier son Dieu, l'occasion de montrer en Israël, nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui intervient. Et c'est lui qui va accorder la victoire dans le discours qu'il fait à Goliath. Il est clairement montré que sa foi est placée dans ce Dieu qui va accorder la victoire. Et il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre sera Israël, un Dieu. Un caillou va suffire pour abattre ce géant. Est-ce que vous avez déjà tiré avec des lance-pierres ? Bon, les jeunes, ça se fait plus, ça. Hein. Maintenant, c'est Nintendo, tout ça. Mais les plus anciens, non. Vous n'avez jamais fait les lance-pierres ?
Voilà.
Merci, Michel, t'as eu peur. Bah, nous aussi, on a fait des lance-pierres. Hein. Donc, on s'entraînait, on mettait des bouteilles au bout des ficelles, on balançait une branche d'arbre, et puis Et puis, on faisait une guerre. Moi, j'habitais une rue qui s'appelait la rue Caplot, il y avait des HLM plus loin, et on se faisait la guerre avec les lance-pierres. Hein. Maintenant, je me dis qu'on était fous. Et j'ai un cousin qui a pris une caillasse dans le front, elle s'est pas enfoncée, là. Non, ça a plutôt fait une belle bosse. Hein. Bon, après, ce qui s'est passé à la maison, c'était autre chose, mais... Mais il faut qu'un caillou rentre dans le front, mais vous imaginez la force. Même là, s'il dit que c'était une pierre lisse, tout ça, alors je ne sais pas la vitesse que ça part le caillou dans une front, mais si l'Éternel ne guide pas ce caillou et ne le fait pas enfoncer dans le front, franchement, humainement, je ne pense pas que c'est possible. En tout cas, je vois une chose. La foi courageuse de ce jeune berger. 2. La grâce que Dieu fait. Enfin, la grâce et en même temps la manière dont Dieu va honorer sa foi. Et à travers ce jeune homme, à travers cette victoire, Dieu va être glorifié. Aujourd'hui, Dieu appelle tous les hommes à se réconcilier avec lui. Et la Bible dit clairement que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut lui offrir le pardon de ses fautes. Il veut avoir une relation vivante avec chaque homme. Rappelons-nous que l'évangile, c'est aussi l'annonce d'une victoire, celle de Jésus, Fils de Dieu, qui a vaincu sur la croix la mort, le péché et les puissances du mal. Jésus est mort sur cette croix, il a été mis au tombeau. Mais il est ressuscité. Des fois, on me dit, mais comment tu peux savoir que Jésus est ressuscité ? La première réponse que je fais toujours, c'est parce qu'il a transformé ma vie. Et Dieu n'a pas voulu démontrer sa toute-puissance en accomplissant des choses spectaculaires aux yeux des hommes. Quand Jésus s'offre en sacrifice, je m'excuse pour l'expression, mais c'est sur une banale croix. Je dis banal parce que à ce moment-là, du temps des Romains, des milliers de gens ont été crucifiés. C'était en même temps un instrument de torture, de mise à mort qui était terrible, mais des milliers de gens ont été crucifiés. Je vous rappelle qu'avec Jésus, il y avait déjà 2 autres personnes qui étaient crucifiées. Et en fait, pour être crucifié, il ne faut pas grand-chose en soi. Il faut 2 poutres et 3 clous. Et le plus important, ce n'est pas la manière dont Jésus est mort, mais c'est le pourquoi il est mort. Il aurait eu la tête coupée ou autre chose, ça importait peu. C'est le pourquoi il est mort. Et il est bon de nous rappeler qu'en offrant sa vie, il l'offre à notre place. Voilà la manière dont Dieu va venir nous libérer de l'esclavage du péché, c'est en offrant la vie de son Fils, qui est une vie pure et son sang pur va couler sur la croix. Et c'est lui qui va nous donner le pardon, qui va nous donner d'être réconciliés avec Dieu. On était comme les Philistins dans une situation désespérée et il a fallu l'intervention de Dieu pour qu'on puisse être dans une situation, je dirais, victorieuse. J'aime aussi à rappeler, quand je parle de la croix, que Jésus s'est offert volontairement. Ce n'est pas un complot des Juifs ou des Romains qui l'a mené sur la croix. Jésus s'est offert volontairement en sacrifice sur la croix. Et dans l'évangile de Jean, il dira « On ne me prend pas ma vie, mais je la donne. » Mais tout comme David, il nous faut faire ce pas de foi. Il nous faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour nous sur la croix personnellement, qu'il est venu là pour nous racheter, pour pouvoir être réconciliés avec lui. Et pour nous qui sommes réconciliés avec Dieu, qui est devenu notre Père, eh bien, vous avez remarqué dans nos vies chrétiennes qu'il y a parfois des Goliaths. Il y a des situations difficiles, parfois peut-être désespérées. On peut penser que les moyens qu'on a parfois sont vraiment faibles et qu'on ne pourra pas régler certaines choses. Mais la foi en notre Dieu, le souvenir des choses qu'il a faites dans nos vies personnelles, l'amour qu'il a manifesté pour nous personnellement sur la croix, tout cela peut nous amener à une foi qui nous pousse à mettre nos faibles moyens entre les mains de Dieu. Car dans ses mains, nos faibles moyens peuvent devenir des délivrances puissantes. Une chose ordinaire peut devenir un outil puissant dans les mains de Dieu quand on arrive à lui confier. Je vous rappelle une chose qui nous fait toujours du bien. La victoire ne dépend pas de nous. La victoire appartient à l'Éternel. Amen.